Midnight City, le M83.
Yes.
Pour lancer officiellement l'épisode Cash Out d'Arnaud de Roden, cofondateur de Pulp, CD à partout. Une intro que j'essaye la plus proche du rythme de ce son que t'as choisi, Arnaud, pour nous parler de l'aventure.
Je suis un grand fan de M83 et cette chanson en particulier, je pense qu'elle reflète bien l'aventure pop.
Pourquoi ?
C'est des hauts et des bas, des rythmes effrénés et après des moments plus calmes, roller coaster et vraiment à la fin que des bons souvenirs.
Le grand 8.
Bonjour mon cher compère.
Bonjour.
Renaud Granier est avec nous comme toujours et nous lançons officiellement le cash out. On commence par le jour J.
Comme d'habitude. Donc on aime bien demander à nos invités le jour J à partir du réveil. Voilà, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu t'en rappelles bien?
Ouais, c'est encore très frais.
C'est récent.
Ça s'est passé 31 mars.
Et, 2022.
Là, 2022, ouais. Là on est en octobre 2022. Donc très récent.
Donc c'est très frais, tu vas pouvoir nous raconter en détail tout ce qui s'est passé le jour J, donc à partir de ton réveil et comment tu l'as appréhendé cette fameuse journée.
Yes, carrément.
Pour ça, tu as choisi une musique et tu as choisi Sunday Morning. J'imagine que vous n'avez pas fait le signing un dimanche?
Non, c'était un vendredi, mais c'était bien la fin de la semaine, c'était un peu plus relax.
Oui, ça a l'air zen.
Ouais,
ce
ça
réveil,
a l'air très apaisé.
On va en reparler.
Donc c'est The Velvet Underground. Est-ce que d'écouter cette chanson, ça te remet dedans?
Carrément, ouais, bah surtout que je me suis bien rappelé de la journée, etc., pour préparer un peu le podcast.
Ouais.
Donc, ouais, c'est de bons souvenirs.
Et alors?
Donc, un réveil en chill out.
Ouais, exactement. En fait, on avait la chance d'avoir bien défini tous les contours avant le signing. Parce que j'avais entendu beaucoup d'histoires d'entrepreneurs qui avaient vendu leur société et qui étaient restés jusqu'à 5 heures du mat en négo sur des questions de vesting, pack d'associés.
Voir des questions non répondues, hein.
Voir des questions non répondues. Et donc moi, je stressais de ouf que ça se passe comme ça. Et en fait, on a eu de la chance, les avocats ont fait un super travail. Et le jour J, on s'est réveillé, on savait qu'il y avait 99,9% de chances que ça se fasse et que tout était déjà décidé, il n'y aurait pas de sujet de négo. Après, c'est quand même une chanson...
Il y a ce 0,1 quand même dans la tête.
Toujours. C'est pour ça que cette question, elle est quand même... Pardon, cette musique, elle a un petit côté un peu mystérieux quand même, un petit peu brumeuse, et c'est ça que j'aimerais refléter, c'est que quand on s'est réveillé, on était relax, on savait où on mettait les pieds, mais on se disait comment ça va se passer, est-ce qu'il va pas y avoir des derniers sujets de négo qui vont émerger au last minute, et finalement pas du tout, c'est très bien passé.
Parce que vous étiez trois, c'est ça, trois assos?
Exactement.
Vous êtes vus un peu avant pour débriefer, avant d'aller chez les avocats, ou
ouais, carrément.
Direct chez eux?
En fait, on a fait la signature l'après-midi, à 15h, donc nous on est arrivé au bureau, comme d'hab, le matin, les trois associés, et on était censé travailler, mais
est-ce que c'est un jour comme les autres? Ouais, non.
Pas du tout. Donc en fait, on s'installe, on commence à répondre à des mails, et on est tous les trois à côté. En fait, on fait que discuter, que se poser des questions sur comment ça se passe, etc. Impossible de se concentrer. Donc on relit les docs pour la millième fois toute la journée, mais en fait, il n'y a plus de questions, plus rien. En fait, ce qu'on a décidé de faire pour décompresser un petit peu avant, c'est d'aller déjeuner chez notre tout premier client historique. On travaille dans la restauration. Et en fait, on est allé chez Big Fernand, qui était un de nos tout premiers clients, le midi même, déjeuner entre associés. Et là, histoire de dingue, on voit notre premier client qui est là dans le Big Fernand. Et il n'était pas censé être là. Nous, on ne pensait pas du tout qu'il allait être là. Et donc, du coup, on en parle avec lui. On dit, c'est un grand jour pour nous. On ne peut pas encore te dire pourquoi, mais tu vas...
Allez, tournée de burger.
Ouais, exactement. Ouais. Ils nous ont bien régalé. C'était trop cool. Et du coup, il a appris 3-4 jours après pourquoi on était venu dans son restaurant ce jour-là, etc. Donc, très bon souvenir.
Ok.
On poursuit la journée, donc vous sortez du déj et à un moment, vous partez au signing.
Exactement. Donc là, ça se passe dans les bureaux de Webedia, parce que Webedia est l'actionnaire majoritaire de partout. Donc il y a Levallois. Et on débarque, super bureau, etc. On était quand même un peu stressés, hein, on va pas se le cacher. Ils nous ont tout de suite mis dans l'ambiance.
Donc c'est chez eux, ouais, c'est un peu original. Normalement, c'est plutôt dans un tiers lieu, ouais, chez les avocats, mais oui, ça dépend. Ouais.
Là, vraiment, je pense qu'ils ont l'habitude, Webedia, de faire des acquisitions. Donc on allait directement dans le...
Ça gagne du temps de recevoir à domicile. Hein.
Bah ouais, ouais, carrément, ouais.
Ils font du bon café.
Et du coup, ils nous ont emmenés directement dans le bureau du CEO de Webedia. On s'est occupé de la partie administrative sans qu'il soit là au début.
C'est côté Webedia que le signing se fait et le deal se fait. C'est
exactement.
Pas au niveau de partout.
Si, c'est au niveau de partout. C'est partout qui rachète Pulp.
Ouais, ouais.
Mais grosso modo, vu que c'est Webedia, c'est une boîte qui appartient à Fimalac, donc du coup, qui est assez carré, assez structuré.
C'est le jeu des poupées russes. Hein.
Exactement. Et donc, du coup, ils ont une grosse team légale, etc. Ils ont l'habitude. Donc, en gros, vu que c'était le premier achat de partout, ça s'est fait chez Webedia.
Ok. Vous habillez d'une manière spécifique
Ouais, on avait tous mis une petite chemise.
Non, pas de cravate.
Non. Voilà, vraiment, milieu start-up, mais même côté
mais
Webedia.
Mais pas de suite à capuche, quoi.
Non. On a fait un petit effort.
Donc autour de la table, les équipes Webedia, les équipes partout, les équipes Pulp, enfin les équipes, tu m'as compris, les trois associés de Pulp.
Exactement. Donc les trois associés de Pulp, le CEO de partout, le DG de Webedia et le président de Webedia, qui nous a rejoint un peu plus tard. Et après, en plus de ça, bien sûr, les avocats. Donc avocat à côté Pulp, avocat à côté Fimalac. Enfin,
ouais. Donc ça fait une team de 15-20 personnes.
Une dizaine.
Ouais.
Une dizaine de personnes.
Signing, closing, même jour.
Tout en même temps, ouais. On signe les docs sur DocuSign, en fait. On est tous présents dans la pièce, mais on signe tous sur DocuSign.
Je pense qu'on va se faire sponsoriser par DocuSign à force de les citer.
Ouais. Il y a YouSign aussi, il faut en citer.
Moi, j'imagine, avant, ils avaient leur pile de papier, il fallait tout signer. C'était quand même vachement
C'était des mallettes de papier avant.
Ah, voilà, l'enfer. Donc là, j'étais très content que ça se fasse en ligne. Et en fait, dès que c'était fait, bim, ils appuient sur le bouton, les virements sont faits, on sort le champagne. Et là, on parle de tous les
Les virements sont faits, mais est-ce que les fonds arrivent à ce moment-là aussi? Parce qu'il y a toujours ce truc où on réactualise son appli.
Ouais, ça a mis 3 jours. Et surtout que mes associés, ils l'ont eu 2 jours avant moi. Donc moi, j'ai
problème. Je suis le mouton noir, moi, j'aurais rien.
T'as pas relu la dernière version du contrat?
J'ai tout vu finalement. Et voilà. Je le savais parce qu'en fait, même les actionnaires, on avait des actionnaires, ils avaient aussi eu l'argent. Donc je savais que ça allait arriver pour moi.
Ok. Tu te dis pas quand même.
Non, mais on réactualise, mais je sais que ça allait bien se passer.
C'est long, attends, 48, 72 heures.
Ça fait beaucoup de réactions.
Ouais, carrément. Surtout que le dimanche, on sait qu'il va rien se passer, mais on réactualise quand même l'appli, juste au cas où.
Donc, tout ça se passe, et après le champagne, donc dans une ambiance assez détendue finalement.
Complètement détendue. En fait, le président Webedia, je pense qu'il a fait beaucoup, il s'appelle Cédric, du coup, très sympa.
Et donc, que tu connaissais juste... d'avant ou
non,
que tu as découvert?
Première fois qu'on voyait. Première fois qu'on
voyait. Et qui est impressionnant, j'imagine que c'est relativement impressionnant.
Ouais. Après, il nous a tout de suite détendu, vraiment. Il est arrivé, en fait, il était complètement conquis par le projet, donc pas de questions là-dessus, on signe, etc. Et après, il voulait juste parler d'entrepreneuriat, je pense que c'est sa passion. Donc, racontez-moi, les gars, comment vous êtes lancés, etc. On a parlé aussi de lui, son expérience, parce qu'il a monté des boîtes, il s'est revendu, etc., etc. Et vraiment, pendant une heure, on a parlé de tout et de rien, mais surtout pas du rachat, en fait. Et c'est ça qui était pas mal, c'est que vraiment, on pouvait...
une discussion un peu informelle.
Ouais, exactement.
Ce qui est cool, c'est qu'avec... on commence là avec Arnaud. Prochain épisode qu'on va faire, c'est les équipes partout qu'on cédait à Webedia, et puis après, on ira prendre le CEO de Webedia qui a cédé à Fimalac, et etc., etc. Non, mais c'est bien, on vient de faire trois castings en une petite dizaine de minutes. Je propose qu'on fasse un gros flashback pour revenir sur l'aventure Pulp, ce que vous faisiez, comprendre le marché, et puis rentrer très vite dans le dur des négos. Je crois qu'il n'y a pas eu un seul acheteur potentiel, donc on va en discuter sur un son de Billy Joel, Pressure. Je sais pas de quand ça date, mais clip à l'ancienne.
Exactement.
t'as choisi ce son pour la, j'imagine pour le titre aussi.
Exactement. Et en fait, pour moi, c'est plus révélateur de la partie négo. Je pense que le son Midnight City s'applique plus à l'aventure.
Au début de l'aventure, bien sûr.
La chanson Pressure, c'est plus sur la partie négo du deal, etc., qui était assez intense.
Eh ben, on va quand même revenir sur les débuts de Pulp. Ce sera pas la bonne musique, mais pour comprendre ce que vous faisiez, t'as évoqué le fait que vous travailliez avec les restaurateurs. Mais je veux bien un petit à défaut d'un pitch, ouais, le
même tes associés, la rencontre, comment est née l'idée, etc. De
ouais, carrément.
Comment tout est parti.
En fait, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Moi, je me suis lancé dans l'aventure Pulp vraiment en sortant d'école.
Donc hyper jeune, quoi.
Hyper jeune. J'avais 23 ans quand j'ai eu l'idée, 24 ans quand on a créé la société.
Ok. Donc et des potes de promo.
Des potes de promo. Alors les deux, donc mes deux associés, Antoine et Olivier, ils sont tous les deux ingénieurs. Ils ont fait leur dernière année en master spé à HEC avec moi. Et moi, j'ai fait le programme classique à HEC. Donc en fait, on était potes de promo, tous les trois intéressés par l'entrepreneuriat. Et donc on s'est ensemble inscrits à un programme pour apprendre à monter sa boîte. En toute fin d'année à HEC, un truc de 6 semaines assez classique. Et là, direct, on s'est dit, bah, ce serait trop bien qu'on se fasse ensemble.
Mais l'idée, elle vient d'où ? Il y a un pain, il y a un truc, il y a toujours une petite histoire.
En fait, tout le programme d'entrepreneuriat, c'était sur comment créer la boîte, comment faire les débuts. Et donc, du coup, il y avait une partie sur comment avoir une idée. Effectivement, comment avoir une idée, ça part avant tout d'un problème, étudier plusieurs solutions.
Là, tu n'avais pas encore l'idée,
etc. Pas du tout.
Pas de secteur, rien.
De secteur à ce moment-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans notre groupe de travail, donc on était 6 personnes, mes 3 associés plus 3 autres personnes, il y avait un restaurateur qui était devenu développeur et qui lui-même avait un restaurant. Et justement, en fait, sa problématique qu'il nous décrivait, c'est que en période de rush, donc c'est entre 12h30 et 13h30 en France, il y avait plein de personnes qui venaient dans son restaurant au même moment. Et donc, du coup, ça dégradait l'expérience client, premièrement. Et deuxièmement, lui, il aimerait bien pouvoir tous les servir, mais il perdait énormément de temps à prendre les commandes, à encaisser. Il voulait améliorer son efficacité opérationnelle. Pour ça, il avait envisagé d'installer une borne de commandes comme chez McDo. Mais dans un tout petit restaurant comme ça, il n'y a pas la place. Et en plus, ça coûte super cher.
Ouais, et puis même pour l'expérience, c'est pas ce qu'il y a de
ça,
plus
ça
fou.
Ça fait McDo hein. Tout de suite. Ouais. Il y a plein de restaurateurs, ils ne veulent pas associer leur image à celle de McDo. Et donc, l'idée sur laquelle, qu'on a inventée, à l'époque, c'était de mettre un QR code dans la file d'attente des restaurants. Les gens pouvaient flasher le QR code avec leur téléphone. Et là, du coup, ils arrivent sur le menu, ils peuvent commander et payer comme sur la borne McDo. Et après, ils ont un numéro de commande comme chez McDo, on les prévient quand c'est prêt, ils récupèrent leur commande. Ça, c'était, donc, du coup, on a eu l'idée en 2017.
La nourriture à emporter, du coup.
Ouais, exactement. Après, précurseur, parce que maintenant, ça sonne comme une évidence dans bien des lieux.
Je peux te dire qu'à l'époque, personne n'avait une idée. On était vraiment les premiers à tester ça. On a commencé
avec même du Uber Eats, etc. C'était déjà démocratisé. Hein.
Ouais, exactement.
Ouais, mais même le QR code, hein, c'était pas...
Ouais, tout le monde se moquait de nous quand on leur parlait de QR code. Ouais. C'était vraiment une technologie has-been, alors qu'aujourd'hui, c'est partout.
Merci et... Covid.
Ouais, exactement. Alors, entre-temps, l'idée, elle a pas mal changé. Hein. On avait commencé avec des food trucks, là, ça cartonnait. Après, avec des chaînes de restaurants, ça cartonnait. Quand on a commencé à adresser le marché de la restauration des indépendants, pour eux, c'était quand même trop niche, ils n'étaient pas encore assez matures sur ces sujets-là. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté un petit peu le modèle, on s'est inspiré de ce qui se faisait aux US. Et aux US, il y a une boîte qui s'appelle Ritual, vous pouvez regarder ensuite, qui fait en fait une marketplace de click and collect pour les restaurants. Donc c'est une appli sur laquelle tu as la liste des restaurants autour de toi, tu peux voir le menu, commander à l'avance et venir chercher quand c'est prêt. Et ça cartonnait aux US. Et donc nous, on s'est dit, mais c'est comme ça qu'il faudrait qu'on adapte le modèle. On s'est posé la question de pourquoi personne ne l'avait jamais fait en France. Et en fait, c'est parce que avant janvier 2019, donc au moment où on a décidé de faire ce pivot, on pouvait pas payer avec des tickets restaurants, les cartes tickets restaurants sur des applis en ligne, sur Uber Eats, Deliveroo, etc. Ouais. C'était pas possible. Les émetteurs de tickets restaurants avaient pas développé la technologie.
Or, la clientèle du midi est souvent très liée à...
Exactement. Notre cible, c'est les actifs qui ont pas le temps le midi, voilà, qui veulent commander en avance. Et donc, il y avait une boîte qui s'était lancée sur ce créneau-là, que vous connaissez tous, qui s'appelle Swile, qui s'appelait Luncher avant, qui avait fait Pulp avant l'heure. Et Swile ne pouvait pas accepter les cartes tickets restaurants. C'est comme ça qu'ils ont lancé leur propre carte tickets resto. Et une fois que on pouvait payer avec la carte tickets resto Swile en ligne, bah, tous les autres, les Edenred, les Sodexo, etc., ils se sont dit, si on fait pas ça, on va être en retard par rapport à Swile. Donc, ils ont développé cette partie tickets restaurants en ligne. Donc, nous, on était les premiers à pouvoir accepter les tickets restaurants en ligne et à pouvoir faire cette fameuse application de click and collect pour les restaurants. Donc, octobre 2019, on change de modèle, on lance Pulp. Avant, ça s'appelait Blackship. Et c'est là où tout de suite ça a pris. 6 mois plus tard, il y avait le Covid. Donc nous, on avait déjà une équipe, une première levée de fonds, des clients, une technologie stable, etc. au moment du Covid, et on a pris la vague pour sortir du Covid comme le leader du click and collect en France.
Tu parles de levée, du coup, c'était assez tôt dans l'aventure, donc c'était en...
C'était, alors, donc nous, on a fait le parcours ultra classique. Subvention BPI, ensuite prêt d'honneur, et ensuite, du coup, au moment de lancer Pulp, Wilco.
Okay. Ouais, Wilco. C'est bien de citer de temps en temps.
Ouais, ouais, ouais.
Tout à fait.
Et franchement, merci Wilco, ils nous ont beaucoup aidés, à la fois côté financier, mais avec des mentors, des experts, des ateliers. Bref, super, je recommande à tout le monde. Et donc, en fait, on a fait la levée de fonds un an et demi après la création de la boîte, justement au moment du pivot, pour pouvoir financer le lancement de Pulp.
Et la levée, on peut parler de montant, d'equity, etc.
Ouais. On a levé 600 000 euros donc, en equity sur la première levée, et après, on a complété avec de la dette. Donc, en tout, ça fait quasiment un million, quoi.
OK. Voilà. Et sur un niveau d'equity de combien sur les 600 000
600 000, c'est que de l'equity.
Ouais.
Et après, du coup, de la dette en plus.
Mais ça vous a beaucoup dilué.
C'était la question. Ouais.
Non, on a fait un bon deal. On s'est dilué à 17% okay. sur le premier tour qu'on a appelé Précide. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, déjà, les levées, elles commençaient à devenir. Hein. Et surtout, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu des très, très, très bons investisseurs qui nous ont beaucoup accompagnés dans le développement de Pulp.
Donc, si c'était pas que du cash, mais aussi tout l'accompagnement derrière.
Ouais, si je peux en citer deux, trois. Par exemple, on a eu le fondateur de Big Fernand, ouais. qui était notre premier client, on en a parlé. Et donc, du coup, qui nous a énormément aidé sur le sujet de la restauration.
On peut rappeler son nom. Hein.
Alexandre Auriac, du coup. Joseph Beauvais, Dimitri et Fabien Garcia, qui sont les fondateurs de Tiller Systems. Donc, c'est les caisses enregistreuses sur iPad.
Très bien.
Qui connaissent très, très bien le secteur de la restauration. Ouais. Voilà, et d'autres.
Donc, qui ouvre des portes,
tout déjà
des
en termes de
strates,
en termes de mentoring, c'était une aide dingue sur les sujets restauration, sur les sujets entrepreneuriat, sur les sujets SaaS, tout ce que tu veux. Et après, effectivement, en termes de réseau, etc., ça nous a énormément aidé au point qu'on a fait du coup un deuxième tour de table un an et demi plus tard. On a refait en fait avec DBA. Là, il y a eu encore des plus gros noms qui nous ont rejoints. Donc, Romain Libaud, qui est un des fondateurs de Swile, justement, Bertrand Gensperger, qui a fondé La Fourchette. On en a eu plein d'autres comme ça qui connaissent très très bien le marché et qui nous ont vraiment beaucoup beaucoup aidés.
Donc du coup, sur une levée plutôt sur des business angels plutôt que sur des VC classiques,
ouais.
Ça c'était un choix de votre part parce que vous aviez dimensionné...
En fait, on a testé les deux sur la deuxième levée et ça allait tellement plus vite avec les BA parce que les fonds de VC nous disaient tous « Ah, le click and collect, ça explose, mais c'est parce que c'est pendant le Covid et il faudrait qu'on voit ce que ça donne hors Covid. » Alors que les BA, ouais,
donc
eux,
en gros, on s'en reparle dans on sait pas quand, donc autant avancer avec d'autres.
Et on a fait le tour avec des BA, des super noms. Donc au début, en fait, on voulait faire une partie BA, une partie VC, et finalement, ça a explosé côté BA. Donc on a pris tout le tour côté BA et on s'est dit les VC sera pour la prochaine levée.
Ok.
On a bien cerné du coup l'activité de Pulp, et donc là va arriver le moment où on va se poser une question, celle de CD. Justement, on a une question d'Olivier Bontou. Bonjour Olivier.
Bonjour Thomas.
À ce propos, tu es banquier privé chez Neuflize.
Tout à fait.
Et tu as une question pour Arnaud que je te propose de lui adresser directement les yeux dans les yeux.
Avec plaisir. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Comme tous les entrepreneurs dans ces sujets, ces réflexions de session, je voulais savoir qu'est-ce qui avait fait basculer ta décision, qu'est-ce qui t'avait poussé, quel était le signal qui t'avait décidé à vendre.
Bah nous, on avait plusieurs options, hein. Bien sûr, on pouvait continuer l'aventure, on pouvait vendre aussi à plusieurs acteurs.
Oui.
Et vraiment, ce qui a changé, c'est le fit qu'on a pu avoir avec les personnes qu'on a rencontrées chez Partout. C'est vraiment le plus important, c'est-à-dire que nous, c'était impensable de vendre l'entreprise et de la quitter du jour au lendemain. On savait qu'on s'embarquait pour une aventure sur plusieurs années. Et donc, le critère le plus important, c'était est-ce qu'on pouvait bosser avec les personnes qui voulaient nous racheter. Et là, ça a été un instant crush avec les fondateurs de Partout et même tout le comex qu'on a pu rencontrer par la suite. Et on s'est dit que c'était avec ces gars-là qu'on voulait bosser, qu'ils allaient créer une boîte énorme et qu'on voulait en faire partie.
Ouais, il y a une certaine évidence, quoi.
Évident.
Donc, c'est pas qu'une question de prix.
Non.
C'est bien de le rappeler.
Bien sûr, c'était important. C'est-à-dire que si les conditions financières n'étaient pas au rendez-vous, on n'aurait pas pu faire le deal. Mais finalement, c'est pas ça qui a fait pencher la balance vers Partout par rapport à d'autres. C'est pas le prix.
On va revenir sur la négo de Partout qui sera le repreneur final de Pulp. Mais t'évoquais là à l'instant d'autres acheteurs potentiels. Raconte-nous ces phases-là, ces moments-là, les premières rencontres, les premiers appels du pied. C'est vous qui cherchez, ceux qui viennent à vous.
Mais en fait, pour ça, il faut qu'on fasse un mini flashback.
Vas-y.
Au sein du flashback. Donc là, on arrive en septembre dernier, donc il y a pile un an. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les restaurants, ils ont réouvert. Et avant, ils pouvaient faire que de la vente à emporter. Et en fait, pendant l'été, ils ont réouvert, mais avec une énorme pénurie de staff. Vous êtes probablement au courant. Aujourd'hui, il y a 40% des emplois dans la restauration qui sont à pourvoir et qui ne trouvent pas preneur. Donc en fait, les restaurateurs, ils ont d'autant plus besoin du digital pour gagner du temps pendant le service et être plus efficace, d'accord ? Donc là, on a ressorti, il y a un an, nos fameux QR codes, et on les a mis donc pour la vente emportée, mais aussi cette fois-ci
sur
pour le service à table. Exactement, donc tu peux commander avec ton téléphone à table et directement régler l'addition depuis ta table. Et donc ça, c'est une idée qu'on avait déjà, voilà. Et en fait, vous êtes probablement au courant, mais une autre personne qui a eu cette idée au même moment, c'est le fondateur de Big Mama.
Tout à fait.
Voilà, et qui a lancé
Sunday,
donc du coup Sunday,
ouais.
Exactement. Donc ils ont fait une première levée de fonds de 20 millions de dollars aux alentours de mai 2021. Et moins de 4 mois plus tard, ils ont relevé 100 millions de dollars. Donc ça, c'était en
donc
octobre.
Donc là, t'as ce concurrent en face qui a des moyens.
Exactement.
Il y a un gros qui arrive, fort en plus.
Très fort et franchement super produit, etc. Nous, on le voyait plutôt comme une aubaine parce que c'est un marché tellement énorme. Eux, ils ont lancé 6 ou 7 pays d'un coup. En fait, on s'est dit qu'ils allaient juste évangéliser le marché. Et de toute façon, on avait toujours notre produit Click & Collect sur lequel eux ne se positionnent pas. Donc en fait, on voyait ça comme un projecteur sur notre marché, sur ce qu'on faisait. Et donc, nous, quand on a relancé ce produit à table via QR code, on a eu direct des super résultats. Donc on repartait pour notre troisième levée de fonds. Et au moment où Sunday a annoncé sa levée de 100 millions, en quelques jours, il y a plein de boîtes qui sont sur le secteur de la food qui ont commencé à m'appeler parce qu'ils se disaient tous « Ah ouais, mais si Sunday lève 120 millions de dollars... »
C'est qu'il y a un marché énorme.
Voilà, et que c'est maintenant qu'il faut se positionner dessus parce qu'après, Sunday va tout prendre. Et donc, vu qu'on était le numéro 2 sur le marché derrière Sunday, en termes de moyens en tout cas, parce qu'en termes de clients, je pense qu'on est à peu près similaire encore à cette époque-là, mais tout de suite, on devenait une cible hyper attractive. Et donc, il y a plein de boîtes qui m'ont contacté. Nous, on n'était pas du tout partis dans l'optique de vendre, hein. Vraiment. Comme
mais
je disais,
contact
on...
comment ça se passe? Est-ce que c'était des discussions que tu as aussi avec les associés à ce moment-là? Enfin, il se passe plein de trucs là.
Ouais. C'est un peu de tout. On a eu du LinkedIn, on a eu des. En fait, la plupart quand même, c'était des boîtes qu'on connaissait déjà. Hein.
Ouais.
Je peux pas trop donner de nom, mais on avait des concurrents US, type Ritual, avec qui on avait déjà échangé pour comprendre un peu comment ils fonctionnaient. Des concurrents irlandais. On avait des boîtes en France qui étaient purement sur la restauration. D'autres boîtes qui étaient plutôt multiverticales comme partout. Et en fait, j'ai reçu des demandes. Moi, parfois aussi, j'en ai relancé certains parce que dès que j'ai compris que ça devenait un peu plus sérieux.
Mais c'est des demandes un peu déguisées. C'est quoi l'objet?
Parlons-nous, quoi.
Tout le temps. Ouais, exactement.
On va boire un café.
Il y a des opportunités de partenariat stratégique, etc., etc. On sait jamais trop. Ouais, exactement. On sait jamais trop ce qu'il y a derrière. Mais en tant que fondateur, c'est quand même toujours intéressant d'avoir une oreille sur ces sujets-là parce que.
Pire, tu prends des infos.
Voilà.
Mais dans les meetings, les choses sont dites ou on tourne encore autour du pot?
Assez rapidement, ouais. Assez rapidement. Souvent, à la fin du premier meeting, ils commencent à dire, il y a plusieurs options pour bosser ensemble. Soit on fait un partenariat, soit il y a carrément une intervention capitalistique. Et là, on pose la question, qu'est-ce que tu entends par là? Soit une levée de fonds, soit un rachat. Ouais. Ça devient assez vite transparent.
Okay.
C'est juste que dans le petit message LinkedIn, je pense que c'est un peu trop rapide souvent pour ces acteurs-là de dire dispo pour un rachat. Quoi.
Ouais.
C'est le process.
Il y en a juste peut-être un petit nombre de perches possibles.
Ouais, il y avait une dizaine d'acteurs en tout qui sont positionnés de près ou de loin sur le dossier. Il y en a certains qui ont droppé dès les premiers calls en fait, soit de leur côté, soit de notre côté. Notamment souvent quand il y avait des concurrents en direct. Nous, on s'est tout de suite dit avec Antoine et Olivier que ça nous intéressait pas parce qu'il allait falloir en fait qu'il ait notre produit et vendre le leur. Et ça nous intéressait pas. Et c'est là où, franchement, partout, ça a été très vite une évidence. On les connaissait déjà. En fait, on avait fait le même incubateur, donc Wilco, trois ans avant, on s'était rencontrés dans ce cadre-là. Et
t'as des synergies, du coup. On va revenir hein, sur partout,
ouais.
si tu veux bien.
Il y avait un point important, parce que là, du coup, il y a un peu un dual track entre soit la levée, soit la session, finalement. Mmh. Est-ce qu'avec les assos, vous êtes alignés là-dessus? Il y a forcément des discussions et des réflexions.
Complètement alignés, mais beaucoup de discussions et d'affection, ouais.
Même avec les BA.
Pro, perso, ouais.
Avec les BA, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a expliqué qu'il y avait cette possibilité de dual track. Ouais, on a été transparent à ce niveau-là. Et après, en fait.
Mais alignés sur la session, du coup.
C'est venu plus tard, en fait. On ne savait pas encore trop à ce moment-là.
Ah oui, donc on a les deux options, mais personne penche pour l'un ou pour l'autre, on verra.
Ouais, exactement. Et nous, on commençait, on bossait sur le deck pour la lever, on commençait à prendre des cafés avec certains fonds, etc., etc. On voyait des marques d'intérêt. C'est juste que vu que ça s'est accéléré beaucoup plus vite côté rachat et que notamment avec partout, ça a été vite une évidence.
Je vois que tu veux y aller et on va y aller. Ça, c'est une promesse. Mais dans toutes ces offres, est-ce qu'il y a des offres c'est no way. Tu parlais de concurrents directs où effectivement, ça peut killer le produit. Est-ce qu'il y a des offres qui sont complètement indécentes parce que vraiment trop faibles ou
No Way pour nous, oui. Après, on a quand même pris les discussions parce que tu sais comment c'est, hein. Il y a un peu un FOMO et plus il y a d'acteurs qui montent sur un dossier, plus en fait les autres ont
tu peur. Tu fais monter le.
Exactement. Ouais. Donc nous, même certains où on savait qu'on n'allait pas y aller, on a quand même engagé des discussions. Après, il y avait tellement de différents types de setups possibles que, en fait, c'était intéressant rien que d'en discuter pour savoir un peu comment ça pouvait, ce que ça pouvait éventuellement donner avec tel type d'acteur ou tel type d'acteur.
Ça donne une visibilité aussi est-ce sur ce qu'on vaut.
Ouais, exactement.
Dans la tête des gens.
Exactement. Mais il n'y a pas eu d'offre indécente.
Il y a beaucoup de choses là, à gérer mentalement, d'options, etc. Est-ce que là, à ce stade, on ne se dit pas on prend une banque d'AF qui peut faire l'intermédiaire ou vous continuez à tout gérer en direct?
Alors, on en a vu plusieurs. En fait, la chance qu'on avait, c'est que dans nos investisseurs, en privé, il y avait certains partenaires de Chausson Finance que vous devez connaître, du coup, qui est un des cabinets leaders sur la levée de fonds et le M&A en France sur ses montants en série A, etc. Et donc, eux-mêmes nous ont donné énormément de conseils bénévoles, plus plein d'entrepreneurs qui avaient déjà vendu leur boîte. Donc, on arrivait assez rapidement à la conclusion qu'on pouvait le faire nous-mêmes.
Parce que là, la boîte est hyper jeune à ce stade. Mmh. Donc, la cession reste une option quand même, malgré, entre guillemets, le peu d'ancienneté de la boîte.
Ce que je disais, c'est que à la base, vraiment, nous, on voulait lever des fonds.
Mmh. Okay. Donc, c'était vraiment par opportunité. L'option 1 était lever des fonds.
Et c'est vraiment en rencontrant...
Tu peux y aller.
En pensant à un projet commun qu'on s'est dit, en fait.
Il a été bon.
Exactement.
On rappelle son nom.
Alors, du coup.
C'est Thibaut ou c'est.
C'est Thibaut Lévy-Martin. Il y a deux Thibaut. Hein. Il y a deux CEO.
Et Thibaut Renouf.
Thibaut Renouf et Thibaut Lévy-Martin. Et c'est Thibaut Lévy-Martin qui a l'idée le sujet. Donc, on se connaissait dans le cadre de l'incubateur. On s'est revus l'été avant. Parce que lui, en fait, il voulait lancer du click and collect. Et potentiellement en partenariat avec nous. Voilà. Donc, c'était déjà une discussion qu'on avait eue pendant l'été. Et au moment où Sunday a relevé, là, on a refait un petit update. Et direct, il m'a dit, nous, ça peut nous intéresser pour le rachat, quoi.
Parce que tu lui as dit que tu avais d'autres approches pour des rachats.
Ouais.
Ça aide à amener peut-être plus vite aussi le sujet sur la table.
Du coup, ça aurait pu être sous format aussi
Partenariat. Ouais.
Voilà, exactement. Exactement. Et donc, en fait, déjà, je connaissais un petit peu et on a vu un bon fit, mais là, on a repris un café, on a reparlé des choses sérieuses. Et c'est à ce moment-là où vraiment, quand je vous disais, c'est un peu coup de cœur, quoi. Mmh. C'est là où tu dis.
Les réus, c'était toujours avec les trois assos, t'étais en lead, tout seul, et tu faisais des débriefs ou.
Les deux premières fois, tout seul. Et après, dès qu'on a commencé à se dire, OK, bah, ça, pour le coup, ça vaut le coup de vraiment creuser, ça pourrait être intéressant. Là, on a fait rentrer, donc, mes associés. Et après également donc les autres personnes importantes chez Partout.
Ouais. Tu dis que le crush, le match était évident. Ça veut pas dire qu'il y a pas de négo.
Non. Ouais.
Bah oui. Eh ben on y va.
Comment ça s'est passé exactement? Déjà la première étape pour moi en termes de négo vraiment sur la structure du deal. Hein. Donc je mets vraiment de côté le côté orga, le côté vision, etc. Ça, on pourra en reparler après peut-être, mais sur vraiment le côté deal, c'est essayer de savoir si en termes de grands ordres de grandeur, il y a un accord possible, quoi. Donc
quand je dis grand ordre de grandeur, c'est on parle de quoi? De 20%? Vous tous les trois, vous étiez dit à moins de ça, on discute pas.
De Valo, quoi.
Ouais.
Ouais, de Valo, ouais. Ouais, en gros.
Vous étiez donné un seuil, en fait, minimum. Et...
Exactement. Donc, en fait, c'est un seuil.
Tu communiques pas sur le montant, je le dis là parce qu'on en a parlé avant de lancer. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la répartition entre l'equity, le cash.
Exactement.
La suite.
Ouais, donc du coup, vraiment sur la structure du deal, nous, ce qui était important pour nous, c'était une bonne valorisation globale du deal, hein, mais un niveau de cash suffisant pour qu'on puisse être à l'aise. Et après, en fait, ce qui a été très fort, c'est que Partout nous a un peu laissé le choix, ou entre guillemets, nous a laissé une marge de manœuvre sur à quel point on voulait une partie cash, à quel point on voulait une partie equity.
Et donc, moins tu prends de cash, plus tu as de valeur en equity, je présume.
Exactement, exactement. Et donc, nous, ce qu'on a fait, on était tous les trois alignés direct avec mes associés, c'est qu'on a pris en cash, ce qui nous permettait d'être très bien et d'être à l'aise et de plus avoir à trop s'en occuper pour les années qui arrivent, quoi. Et après, tout le reste, on a préféré le mettre en equity. Parce que pour ceux qui connaissent pas Partout, c'est vraiment une très belle boîte française qui a un très bel avenir devant elle. Et nous, vraiment, le pari qu'on a fait, c'est que ça allait devenir the next big thing et qu'on allait donc, du coup, voir la valeur de nos parts augmenter significativement.
Est-ce que ça, c'était l'élément clé qui a fait que vous avez eu envie de rentrer dans le projet? Que Partout vous laisse la liberté de choisir entre l'equity et le cash?
Non, pas forcément. Honnêtement, tu vois, ça aurait pu, je dis des bêtises, hein, ça aurait pu être full cash parce que de leur côté, ils n'avaient pas le choix de nous donner de l'equity. Peut-être que ça aurait pu être des niveaux suffisants pour que nous, on soit à l'aise aussi, tu vois. C'était...
Là, t'es encore en égo avec d'autres. Ouais.
Ouais, ouais. Exactement, exactement. Maintenant, je pense qu'il y a un point qui est limite encore plus important, c'est qu'on sait qu'on va être dans la boîte pendant plusieurs années. Et c'est à quel point nous, le projet nous botte. Est-ce que nous, nos fonctions, elles nous intéressent? Est-ce qu'au quotidien?
Parce que là, l'idée, c'est pas juste de faire leur out et de partir. C'est vraiment de se projeter sur du long terme chez
ouais,
eux.
Exactement, ouais. Ouais. Parce que j'y crois beaucoup.
Ouais, de toute façon, si tu prends autant d'equity, on n'a pas parlé de pourcentage, mais si tu prends autant d'equity, c'est que tu crois dans la boîte. Parce que sinon.
À fond.
Ouais.
À fond. À fond. Et d'autant plus que pour moi, c'était un peu un nouveau challenge, mes associés aussi. C'était la première fois qu'on devenait salarié. Et je pense qu'on a énormément à apprendre dans ce contexte-là.
On va en parler.
Ouais.
Bon, ouais.
Alors, du coup, c'est un sujet.
Non, non, mais c'est un vrai sujet. Du coup, répartition entre les actions que vous prenez chez Partout et le cash, c'est quoi? C'est un 30-70, 20-80?
À la fin, c'est arrivé sur deux tiers d'equity, un tiers de cash.
OK. Ouais.
Et en plus de ça, du coup, il y a une partie earn-out donc, qui vient en bonus du deal.
En fonction des résultats,
en
donc.
En fonction des résultats, exactement.
Sur 3 ans.
Sur 3 ans, avec...
Je suis bien renseigné. Hein.
Ouais, ouais.
C'est toi qui m'as dit tout à l'heure.
T'as bien bossé.
Et c'est un earn-out en full equity. Ça aussi, du coup, on aurait pu négocier, mais nous, on préférait du full equity vu qu'on était à l'aise avec le montant de cash et qu'on sortait du deal.
Et donc, tu me disais, pas de vesting, mais en fait, c'est quand même un peu de vesting parce que ce earn-out, il est très lié à votre présence.
Ouais, exactement. Exactement. Bah, c'est sûr, hein, plus on part tôt. Déjà, si on part, on doit vendre nos parts. Et avec donc du coup une formule calculée à l'avance, mais qui n'est pas l'équivalent de ce qu'on pourrait avoir sur le marché si il y avait une entrée en bourse par exemple ou autre, d'accord?
Ok.
Donc du coup là-dessus, nous on est incentivé à rester, d'autant plus qu'il y a un earn-out en plus qui peut en fait ça peut nous rajouter 60%
de la valeur totale.
Plus, ouais. Donc c'est très bien pensé parce que du coup ça nous encourage à rester plus longtemps.
60% fixé à l'avance, c'est pas en fonction de la valeur des actions à 3 ans.
C'est 60% fixé à l'avance, exactement.
Ouais. Non, il n'y a pas d'indicateur de chiffre d'affaires, etc.
Si, en fait, c'est 60%, c'est si on atteint 100% de nos objectifs.
Okay.
C'est déplafonné. Enfin, il y a un plafond, mais beaucoup plus élevé que, voilà, on peut monter à 160%, on a encore des parts en plus. Et à l'inverse, du coup, il y a un seuil minimum d'atteindre des objectifs pour débloquer.
Et les objectifs, justement, c'est quoi les indicateurs qui ont été retenus?
C'est l'ARR.
Ok.
Ouais. L'ARR plus commission, nous on a un double modèle, donc les deux, mais c'est des niveaux de revenus quoi. On va pas jouer sur des coûts, etc.
Oui, ce qui arrive parfois dans des négos et en fait après coup.
Bah t'as plus la main sur la compta et la finance, donc
exactement,
c'est compliqué.
Exactement. Donc déjà ça c'était assez smart. Ils sont beaucoup renseignés pour comprendre les best practices et ce qui faisait qu'on allait être incentivé derrière. Et en plus de ça, on était une boîte encore toute petite. Il y a tout à faire. Donc
vous étiez combien de collabs?
Alors on était 18 en comptant CDI plus alternant.
Ok.
En tout, je crois que c'est 14 CDI plus founders, quoi.
Ouais.
Ok. Et alors justement, les collabs, à quel moment on leur en parle?
C'est une grande discussion.
Comment c'est reçu?
Ouais.
La loi Hamon, qu'on adore.
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, typiquement, c'était un no-go total si une boîte nous proposait de nous racheter sans garder l'équipe.
Ouais.
Donc ça aussi, ça a beaucoup...
Bon, en général, ils le disent pas avant, mais tu le sens, quoi.
Ouais, ouais. Tu le sens, ça se voit très vite dans les discussions, ouais. Et après, du coup, comment en parler? Bah, déjà, nous, il fallait qu'on s'assure que c'était l'option qu'on retenait. Et pour ça, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de discussions, etc. Donc, on a beau vouloir être transparent, etc. On peut pas en parler trop tôt. D'autant plus que,
si
on en parle trop tôt et que ça se fait pas, c'est un signal vraiment terrible pour toute l'équipe, etc. Donc, on a dû attendre, en fait, d'avoir signé la term sheet et d'avoir fait 90% de la due diligence avant de pouvoir en parler. On a commencé par en parler à nos managers. Comment ça s'est passé? On a loué une salle de coworking pour parler un petit peu de la vision future. Et en fait, donc c'était un peu le prétexte. Et en fait, on est arrivé direct, on a donné l'info. On a répondu un petit peu à toutes les questions. On allait faire un déj.
C'est quoi les questions? Est-ce qu'on reste? C'est quoi le projet?
La première question, c'est pourquoi? Pourquoi ce choix-là? Deuxième question, c'est comment? Et troisième question, c'est qu'est-ce que je vais devenir? Quatrième question, c'est plus curiosité. Ok, mais vous allez devenir quoi? Comment était structuré le deal, etc. C'est un peu, je dirais, les canons de questions qui vont être posées, quoi.
On a une réponse à tout.
Ouais, on a été super transparent. Juste le montant fixe du deal, ça, on n'a pas pu le dire. Mais on a parlé, comme on, je parle dans ce podcast-là, de la structure, etc.
Parce que du coup, il y avait des BSPCE ou, dans vos salariés ?
Exactement. Donc en fait, pour les BSPCE, ce qui s'est passé, c'est qu'ils pouvaient les exercer, mais ça n'aurait pas été un gain énorme. Donc en fait, ce qu'ils ont tous préféré faire, c'est, enfin, on les a vraiment incités à faire ça, c'est transformer leur BSPCE pulp en BSPCE partout. Et ça, du coup, pour le coup, ça a beaucoup plus
sur
de sens.
Sur les mêmes conditions, du coup, il y a une symétrie de...
Ouais, exactement. Okay. Ouais, ouais, hyper important. Et donc, du coup...
C'est-à-dire que tous doivent signer aussi le jour du...
Ouais.
En amont du signing.
Exactement.
Qui est-ce qui nous disait ça, que ça avait... Bah, c'est Alexandre Ducœur qui nous disait que le jour J, en fait, il avait 2 heures pour faire signer tous les détenteurs de BSPCE.
ils peuvent bloquer la transac,
ouais. Ouais. Bah, nous, ça s'est bien passé. Et en fait, c'était assez évident. S'ils faisaient les calculs... que déjà ça dérisque d'être de devenir porteur de BSPCE partout, qui est déjà en équivalent série B, quoi, hein, donc voilà. Et en plus de ça, l'upside derrière peut être quand même assez énorme.
Ok.
D'autres points de négo?
Bah, il y en a eu beaucoup. Forcément, en fait, c'est des points de négo, c'est des points de discussion, en fait, et sur chaque discussion, il y a une négo. Donc c'est pas forcément un process qui a été particulièrement painful, c'est plutôt très bien passé, je pense, si on prend un peu de recul. Et oui, toutes les semaines, il y avait des discussions un peu tendues avec tout le monde dans la boucle. Par exemple, sur le niveau de salaire, donc comment on aligne les salaires des salariés pour éviter qu'il y ait des injustices, mais que quand même, du coup, ceux qu'on a pu, par exemple, sous-payer pendant plusieurs années parce qu'on était une start-up puissent arriver à des niveaux de marché sur les salaires. Donc ça, c'était
hyper important. Il y avait la chose inverse. Vous avez surpayé certains profils par rapport à leur grille à eux, hein, je veux dire, en interne.
Y en a certains qui, effectivement, n'étaient pas complètement alignés avec la grille. Après, il y avait des vraies justifications dans le sens où des employés arrivaient plus tôt, qui étaient structurants, etc. Donc, ça a pu très bien se comprendre et c'était quand même vraiment l'exception, quoi.
OK.
En général, vu que partout est plus avancé, ils payaient mieux que nous. Et d'autant plus que nous, on avait quand même donné des BSPCE à tous nos employés. Donc, en fait, c'est un peu une façon de dire, bon, bah, on peut pas te donner le salaire que tu veux sur le marché. Par contre, avec les BSPCE, tu peux aller plus haut, quoi.
Autre point.
Vos salaires à vous.
Ouais, exactement. Donc, ça aussi, il y a eu beaucoup de discussions. D'autant plus qu'en fait, dans le BP que j'avais envoyé à la base, il y avait un niveau de salaire. Mais c'était un niveau de salaire, j'ai juste tiré la formule. Je me suis dit, si on lève des fonds, j'ai envoyé le BP qu'on avait préparé pour l'élection. Si je lève les fonds, ce sera un sujet de négo. Et partout, au début, avait compris que c'était le salaire qu'on voulait se payer, qui était pas du tout aligné avec nos attentes, quoi. Donc effectivement, on a dû avec les
leurs.
Et pas du tout aligné avec les leurs non plus, ouais. Non, pas du tout.
Vous demandiez trop?
Pas du tout assez dans le premier BP, assez, en fait. Parce qu'en fait, c'était même pas une demande. C'était juste, moi, j'ai tiré la formule, mais je m'étais pas posé la question. C'est-à-dire que quand
oui,
tu fais le BP...
pour les VC, on va pas trop se payer en banque gestionnaire.
Ouais, etc. Voilà. Et après, on négocie quand on est un peu avancé dans le deal, mais ça impacte même pas le PNL du BP, en fait, nos salaires en soi sur plusieurs années. Donc, je m'étais même pas posé la question d'envoyer un BP. Et par contre, eux, ils avaient compris que c'était ça, nos attentes. Donc, on a dû renégocier. Et à la fin, on a gagné quand même 50% de salaire en plus par rapport à ce qu'on avait mis dans le BP, quoi.
Oui, parce que comme tu l'as dit, tu vas devenir salarié.
Exactement, ouais.
Et il y a des négos, j'imagine, sur la fiche de poste aussi, de chacun.
Alors, c'est pas vraiment des négos, c'est plutôt comment on l'a construit, en fait, tout simplement. Hein. Donc, pour vous expliquer la logique côté partout, donc partout améliore la visibilité en ligne des commerçants, d'accord ? Donc, n'importe quel commerçant, commencez par des très gros comptes, des Monoprix, Leroy Merlin, etc. Et ils sont venus plus récemment, il y a 2 ans, sur les petits commerçants, donc le marché SMEs. Et en fait, historiquement, toutes les équipes partout, donc sales, CSM, marketing, s'adressaient de la même façon à tous les commerçants. Donc un sales pouvait démarcher un jour un restaurateur, le lendemain les coiffeurs. Et bien sûr, c'était pas optimal, ils le savaient. Donc un des gros objectifs du rachat, c'est de faire en sorte qu'on verticalise le business. Et
donc vous sur les restaurateurs.
Exactement, que nous, en fait, on soit la première brique de la verticalisation et qu'on construise donc partout food, la branche est partout dédiée à la restauration, avec un discours sales adapté, un discours marketing adapté, un onboarding adapté et même un produit adapté.
Et donc même avec plusieurs produits sur la food du coup.
Exactement.
Dont le produit historique de Pulp, mais pas que.
Exactement.
Ça veut dire embarquer des équipes partout, côté sales, côté CSM, reformer vos équipes aussi à d'autres solutions.
Exactement. C'était les gros enjeux du coup des premiers mois, effectivement. Après quand même, nous on a fait le choix sur le marché SMBs d'avoir une offre complète, qui inclut tout, pour simplifier à fond le discours, notamment pour les clients. C'est compliqué pour eux de bien comprendre les implications d'avoir un produit avec des offres à tiroir, etc. Donc, si on simplifie qu'on a une offre, c'est plus efficace.
Et la marque, du coup
Partout Food.
Donc, Pulp disparaît.
Alors, nos équipes et notre produit deviennent Partout Food. Maintenant, côté Pulp, vous le savez, il y a une application Pulp, grand public. Donc en fait, l'application Pulp reste, mais c'est Pulp by Partout.
Ok.
Tu vois, donc les équipes c'est Partout Food et le produit c'est Pulp by Partout.
Ok.
Arnaud, est-ce qu'un moment dans tout ce process avec Partout arrive la réflexion, ça va peut-être pas se faire?
Plusieurs fois. Tous les jours en fait, limite. En fait, c'est vraiment les montagnes russes, d'où le choix de la chanson, Pressure. C'est vraiment ça. Et c'est le matin, on se dit, OK, c'est bon, on peut plus rien se passer. L'après-midi, on apprend que il y a la guerre en Ukraine. Pff, là, on se dit, ah, mais quelles vont être les implications, etc. Ensuite, on se dit, bah, c'est nickel, on est bon sur toutes les négos, etc. Et puis ensuite, donc du coup, petite anecdote, on se rend compte que dans le BP que j'avais envoyé, j'avais fait une erreur de formule, j'avais oublié de prendre une partie. Et donc du coup, quand je tire la formule bien, bah il y a un énorme trou de trésorerie. Donc en fait, j'ai dû refaire le BP de A à Z pour essayer de retrouver un niveau de financement acceptable, etc. Donc voilà, montagne russe complète.
Il y avait un sujet sur la dette aussi.
Ouais, exactement, exactement. Donc pareil, donc quand on a commencé les discussions pour avoir un grand ordre d'idée de la valeur globale, on nous a demandé de faire une estimation de la dette nette qu'on avait. Et en fait, je sais plus trop pourquoi, je t'avoue, mais on s'était trompé dans l'estimation. Et quand on l'a recalculé le jour du deal, je pense qu'on l'a...
Le jour du deal, ça. Juste avant.
Ouais, deux semaines avant, un truc dans le genre. En fait, je pense que je m'étais trompé parce qu'on n'était pas très propre côté comptable, quoi. Hein. Comme une start-up, on avait beaucoup de dettes là-dessus, on n'avait pas toutes les bonnes factures, etc. Donc, quand j'ai bien recalculé deux semaines avant, on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup moins de dettes que prévu. Donc, ça, c'est une bonne
nouvelle
pour nous.
Ça va coûter plus cher pour eux.
Exactement. C'est une bonne nouvelle pour nous en tant que fondateurs. Pour eux, ça ne coûte pas plus cher. Ça coûte...
Bah oui, puisqu'à la fin, ils rachètent la dette. Donc,
exactement. Ouais. Ça ne coûte pas plus cher. C'est juste que c'est plus de trésor à sortir
tout de suite.
Le D-Day. Exactement. Donc finalement, à la fin, ils sont pas plus mal, parce qu'en plus, c'est de la dette à taux zéro, c'est des trucs super intéressants. Quoi. Finalement, c'est pas plus mal, mais c'était pas prévu, c'était pas quelque chose qu'ils avaient signé avec Webedia et Fimalac pour faire le deal. Donc du coup, si on...
Mais oui, en fait, à chaque nouveauté, tu te dis, est-ce que ça peut remettre en jeu le deal?
Exactement.
Ça crée de l'incertitude.
Exactement, quoi. Exactement. Et nous, d'autant plus qu'on avait déjà dit qu'on était OK sur les niveaux de cash, equity, etc. qu'ils nous avaient proposé au début, et là, on l'augmente en fait. Donc,
au fait.
Voilà, voilà, exactement, exactement. Donc ça a été assez compliqué. Et là où ils ont été très très bons, je pense, c'est que ils ont bien compris que c'était important pour nous, que vraiment en fait.
Se sécuriser quoi.
On n'aurait pas compris qu'ils le prennent pas en compte, sachant que pour eux c'était pas plus cher, c'est juste un peu plus de cash à sortir day one. Et donc du coup ils ont réussi à faire un deal où ils nous ont donné plus de cash, donné plus d'equity, mais pas autant que 100% de la dette nette. Donc ils ont trouvé le bon niveau. Où eux, ils pouvaient être à l'aise avec le truc pour présenter à leurs actionnaires et où nous, on était quand même plutôt contents qu'ils aient fait un effort.
Ils ont fait un effort. Vous êtes arrivés jusqu'au signing, ça s'est fait. Et ben ensuite, comme tu l'as dit, nouvelle vie d'entrepreneur à salarié dans une boîte. On va se poser la question de est-ce qu'on reste entrepreneur? Je crois que la réponse est oui, mais n'empêche, c'est une nouvelle vie, une nouvelle casquette. On entame les jours d'après avec Just the Two of Us. C'est une reprise?
Non, c'est Will Smith qui a fait la reprise, je crois. Ouais.
C'est l'original. J'avais quelqu'un d'autre en tête, ok.
Ouais, je crois qu'elle a été reprise plusieurs fois.
J'adore cette chanson.
Ouais, fabuleuse. On se laisse un peu de temps pour kiffer. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us,
just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We can make it if we try.
Exactement.
C'est le sujet de tous les jours.
Exactement. En fait, pourquoi j'ai choisi cette chanson, c'est que là, on a un boulevard devant nous. On a une offre de dingue sur le marché de la restauration qui ensuite pourra s'adapter d'ailleurs à d'autres verticales. Notre produit, on peut le dupliquer pour potentiellement demain un fleuriste, etc. Voilà. Il y a tous les sujets post-merger integration pour trouver la bonne organisation, pour que côté people, ça matche bien, etc., etc.
Les vraies synergies.
Les vraies synergies. Et donc, du coup, c'est les sujets du jour d'après.
Parce que de manière très pragmatique, les bureaux, le staff, comment ça se passe
En fait, on a fait l'annonce à notre équipe, donc 10 jours avant le sign-in, à toute l'équipe, hein, globale. Et on leur a dit, OK les gars, dans 20 jours, on déménage.
Okay.
Et ça, c'était un très bon choix. D'ailleurs, je recommande à tous les entrepreneurs, futurs exiteurs qui nous écoutent. On pourrait se dire, mais c'est trop rapide au bout de 10 jours de déjà changer de bureau, on va tout chambouler, etc. Mais en fait, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui se posent dans les quelques jours après le rachat. Et qu'en fait, le plus vite on arrive dans une nouvelle atmosphère et on voit qu'on est bien accueilli, on voit que partout, ils nous ont fait un accueil royal. C'est-à-dire que tout le monde nous a applaudi en arrivant. On a fait des énormes soirées, etc., etc.
Chacun avait un bureau, en tout cas un endroit où poser son. Ouais, ouais.
Et un bureau avec, enfin, bien mieux que ce qu'on pouvait avoir avant, avec des super décos, etc. Enfin, en fait, tout de suite, toutes les questions qu'ils pouvaient avoir en tête, bah, elles étaient répondues parce qu'ils discutaient avec tout le monde en fait, dans la boîte. Les CEO sont intervenus plusieurs fois. Nous, on a fait un speech partout, juste après. Et donc, en fait, c'était très, très bien en fait, de le faire aussi rapidement.
Et du coup, en termes de périmètre, vous trois, les associés, est-ce qu'il a beaucoup changé, un peu changé, pas du tout changé ? Managérial, alors, notamment ?
Yes.
Pas déjà, maintenant, il gère plus la compta et elle est mieux tenue.
Voilà, ça, c'est une charge mentale en moins.
Ça, c'était le premier truc qu'on a fait, c'est enlever tout ce qui pouvait nous faire perdre du temps à nous et là où partout pouvait nous aider et être plus efficace. Donc, tout ce qui est gestion de la paye, des contrats de travail.
Toutes les fonctions support.
Toutes les fonctions support. Et donc, nous, en termes de périmètre, en fait, on a fait exactement pareil que ce qu'on aurait voulu faire si on avait levé des fonds. C'est-à-dire que, par exemple, pour mon associé Olivier, qui gère à la fois le produit et la tech, lui, il a une affinité plus particulière pour le produit. Donc, plus on avance, plus il spécialise là-dedans et plus, donc, du coup, on a un expert tech qui peut gérer cette partie-là. Mon associé Antoine, lui, il gérait opération, marketing, customer success. Mais lui, son gros kiff, c'est la partie opération. Donc, plus on avance, plus on se repose sur des personnes. Et moi, l'idée, c'est que je puisse gérer tous les scopes. Ouais, avant, je m'étais pas trop né dans la partie customer success parce que j'avais pas le temps. Et ben maintenant, du coup, j'ai
ce temps qui est libéré sur d'autres sujets.
Exactement, exactement. Et donc là, du coup, je manage des managers.
Avant de rentrer dans ce qui se passe dans la tête de l'entrepreneur, des entrepreneurs, sur les synergies et du coup sur le nouveau marché, t'évoquais un concurrent qui avait levé beaucoup d'argent. Est-ce que le fait d'arriver avec une offre plus globale permet de rentrer et de se positionner plus facilement aussi sur le marché? Ou est-ce que du coup c'est plus un concurrent parce que on ne parle plus de la même chose?
En fait, le marché de la food tech est très particulier, c'est-à-dire que tout le monde est partenaire et concurrent. C'est un peu consanguin. L'idée, c'est de trouver sa place et son discours, son approche qui permet de prendre des parts de marché, d'accord? Et donc nous, il y a vraiment deux grosses problématiques à lesquelles on répond avec notre offre globale. C'est premièrement que les restaurateurs aujourd'hui, ils ont une multitude d'outils SaaS dans tous les sens. Ils savent plus où donner la tête. Et donc du coup, plus ils ont un interlocuteur
où tout est intégré.
Voilà. Mais le problème de ces interlocuteurs où tout est intégré, c'est qu'en général, ils développent tout en interne. Donc ils font un peu tout, mais ils font tout moyennement. Alors que là, la force d'un build-up avec partout, c'est que nous, on est experts de la commande et du paiement en ligne. Et eux, ils sont experts de la visibilité et de la réputation. Tu vois, on garde notre expertise, mais on la fusionne, on fait une offre commune. Et ça, personne ne peut le faire sur le marché de la restauration.
Voilà. Ça fait la diff.
Exactement, donc ça fait la diff. C'est ce que je disais, il y a un boulevard devant nous. Bien sûr qu'on est concurrent d'un Sunday, mais en fait, on est concurrent sur une toute petite partie de notre offre. On est aussi, par exemple, concurrent d'acteurs du click and collect, mais qui ne peuvent pas faire la partie visibilité, etc. Donc, on a vraiment une offre unique sur le marché. Là, toute l'idée, c'est de savoir comment on approche le marché, comment on se développe le plus rapidement possible.
Le deal étant très récent, t'es encore dans la boîte. Comme tu le disais tout à l'heure avec Renaud, maintenant t'as une casquette de salarié. J'imagine que tu vas pas tout nous raconter dans le détail, mais je trouve ça intéressant et c'est aussi le deal de t'avoir si tôt après la revente, parce que c'était intéressant. Tu puisses quand même partager ce qui se passe dans la tête de l'entrepreneur au moment de ce changement de posture, en tout cas de rôle.
C'est hyper intéressant parce que moi, de mon côté, je sais qu'un jour, je veux remonter une boîte. D'accord? C'est mon objectif. J'ai vu comment passer une boîte de 0 à 1, de 1 à 10. Par contre, j'ai pas encore vu comment passer de 10 à 100 et de 100 à 1000, d'accord ? Et donc, du coup, en devenant salarié de partout qui est pile dans cette partie-là, bah, je vois tout ça. Et en fait, je le vois pas avec le même œil que si j'avais été la tête. Plein de fois, en tant que CEO, tu es un peu dans ta bulle et tu as du mal à comprendre quels sont un peu les bruits couloirs, etc., etc. En fait, en renversant ça, en mettant moi, du coup, côté salarié, j'apprends énormément, énormément de choses qui vont permettre, moi, demain, d'être un meilleur entrepreneur. C'est vraiment une des raisons que j'ai trouvé hyper intéressante dans la question du rachat, en fait. C'était de pouvoir devenir salarié pour la première fois de ma vie.
Mmh. Hyper intéressant. Ouais. Donc, tu prends beaucoup d'expérience pour l'après, quoi.
D'autant plus qu'il y a une gros focus côté Parsou pour améliorer les compétences des managers. Donc, à la fois sur la partie leadership et management,
tu prends beaucoup
de formations là-dessus que j'aurais jamais eu le temps de faire si j'étais toujours CEO de ma boîte.
Bah, surtout que tu as lancé juste après les études, hein, ce que
direct,
tu disais.
Ouais, donc, j'avais jamais managé.
Il y a plein de choses qu'on sait. De toute façon, il y a toujours plein de choses qu'on sait pas faire, mais aussi sur ces sujets-là.
J'ai fait 10 000 erreurs, j'en ferai bien, probablement encore 10 000, mais au moins.
Mais pas les mêmes.
Au moins là, j'ai une vraie expertise que je peux réutiliser par la suite.
Est-ce que la relation change avec les associés. Là, on va faire un gros flashback, mais entre le début, vous êtes sur les bancs de l'école, la naissance du projet, etc. Ensuite, on passe 3 ans ensemble au quotidien à bosser, à développer une boîte. Donc déjà là, c'est peut-être pas la même relation qu'au début. Puis ensuite, ça vend. Mmh.
Ça change. D'autant, en fait, la raison principale, c'est qu'au quotidien, on est beaucoup moins amené à travailler ensemble. On travaille beaucoup ensemble, mais c'est juste qu'avant... C'est tout le temps quand t'es 3 associés et que tu montes ta boîte. Alors que là, bah, plus on segmente, moins on passe de temps à travailler ensemble. Je pense notamment avec Olivier qui est plus sur la partie produit tech et qui là, du coup, bah, est quand même un peu plus séparé de la partie business quand on est moins en gère. Donc ça change beaucoup. Après, nous, on a notre petit rituel, c'est que tous les mois, on déjeune ensemble. Et là, vraiment, c'est comme avant, quoi. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'en dehors du taf, Antoine et Olivier, c'est mes deux meilleurs potes. Donc, en fait, on se voit tout le temps en dehors du taf et on parle tout le temps.
Est-ce que vous voyez moins pendant l'aventure en dehors du taf ?
Non.
Non, ça n'a rien changé, là.
Toujours, ouais. Vraiment, on est comme les doigts de la main, quoi.
Mais du coup, il y a des problématiques sur lesquelles vous échangez plus. Donc, le staff, est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas ? Est-ce qu'on investit là ? Est-ce qu'on investit plutôt là ? Etc. Ouais. Tout ça, ça fait plus partie de votre quotidien.
Exactement. Donc, en fait, on a des nouveaux interlocuteurs pour ces sujets-là. Et c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de travailler avec des personnes avec qui on n'a pas travaillé, on ne sait pas encore comment elles travaillent. Alors qu'Antoine, Olivier et moi, on se connaissait par cœur, donc ça devenait limite trop simple.
Et dans la relation aux équipes historiques, n'ayant plus la main sur tout, est-ce que ça change aussi quelque chose ?
Ça change énormément, mais je pense que c'est plus le côté scale-up que le côté rachat. Dans le sens où... En fait, si j'avais levé des fonds, ça aurait été pareil. J'aurais pris des middle managers qui auraient géré au quotidien et moi, j'aurais managé des managers. Là où, par exemple, pour te donner un exemple très, très précis, avant le rachat, ma head of sales était partie, donc j'étais redevenu head of sales de Pulp. Je gérais, du coup, 6 sales en direct et je suis monté jusqu'à 10 après le rachat. Bah, ça, si j'avais levé des fonds, ça aurait été pareil. J'aurais quitté ce management, donc ça aurait changé quand même la relation aux équipes. C'est pas forcément lié au rachat, même s'il y a peut-être une petite part liée à ça.
Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui cède et qui va rentrer dans la boîte pour X temps chez le repreneur ?
Je pense que y a un point très important, c'est que vous connaissez mieux le marché que les personnes qui peuvent avoir fait le rachat et c'est pour ça qu'ils vous rachètent. Donc parfois, en fait, on peut être entraîné à droite, à gauche, il y a plein de gens qui veulent vous solliciter pour ça, pour ça, pour ça. Il faut aussi savoir dire non, savoir se focus sur vraiment les enjeux business. Et savoir s'imposer en disant, moi c'est un peu nouveau pour moi la partie un peu entre guillemets politique, ouais. Savoir s'imposer pour dire non mais c'est ça qui est bon, laissez-moi travailler là-dessus et le reste on verra plus tard, quoi.
Est-ce que c'est peut-être pas arrivé, c'est pour ça que je vais parler au futur conditionnel, mais c'est plus toi qui prends forcément toutes les décisions, tu te prépares au fait que sur une conviction très forte que tu peux avoir, la décision finale n'ira pas dans ce sens et comment tu réagiras ?
C'est déjà arrivé, c'est pas évident, c'est nouveau, hein. C'est vraiment nouveau. Maintenant, la force du COMEX, en gros, partout, enfin, des top décisionnaires, c'est que quand ils prennent une décision, ils expliquent vraiment pourquoi, tu vois. C'est en transparence et vraiment en passant du temps à expliquer le pourquoi, du comment, etc. Et à la fin, jamais ils prendront une décision sur laquelle je suis pas aligné après l'explication, tu vois, qui me concerne. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon de démotiver quelqu'un, d'autant plus s'il y a un rachat. Donc, parfois on n'est pas d'accord au début et on doit s'aligner et je dois faire un peu confiance, mais je comprends le rationnel et je dis ok, bah fine, je comprends le truc, on va tester.
Et puis à la fin, t'es incentivé à la valeur de partout et donc ce qui peut servir partout et peut-être parfois pas servir autant que tu le voudrais, le pulp historique, finalement c'est moins sujet.
Exactement, et ça pour les futurs racheteurs et rachetés, le fait que j'ai plus d'incentive sur la boîte partout que sur l'earn-out, sur la partie partout foot que je gère, c'est hyper hyper bénéfique parce que ça me permet justement de parfois prendre des décisions qui sont pas forcément, enfin qui sont les meilleures pour la boîte et sur lesquelles ça aurait été un peu débile de le faire juste pour la partie food, tu vois. Donc ça c'est hyper important.
Et en même temps, on a beaucoup d'entrepreneurs passés à ce micro qui nous disent privilégie le cash. Tout ce que tu peux prendre tout de suite, c'est garanti.
Ouais. Bah ça du coup on va voir, le futur nous le dira.
Ouais.
Je pense que ça dépend beaucoup du repreneur et à quel point il peut avoir une déontologie, une éthique. Je pense que vous-même du coup on en a parlé un petit peu
et on ne s'étendra pas au micro.
Okay, ça marche. Mais du coup le futur me le dira. Moi,
oui, ça dépend de la durée de la projection, ça dépend à quel niveau tu crois au repreneur aussi.
Exactement.
Tu te retrouves en lui, en termes de valeur, etc.
Je pense que chaque situation est différente, donc on ne peut pas faire une règle générale sur le fait de prendre le max de cash tout de suite, selon moi. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est l'option la moins risquée. C'est sûr. Prendre le max de cash, c'est le moins risqué.
Bah, c'était le Gagnon qui avait sorti des stats comme quoi 80% des earn-out n'étaient pas payés en totalité. Ça ne veut pas dire pas payés, hein, mais en totalité.
Bah, on verra demain.
Pardon, je te vois, tu deviens tout blanc. Non, je rigole. J'essaie de projeter l'imaginaire de nos auditeurs, mais ce n'était pas le cas. Non, mais effectivement, c'est un pari.
Et c'est un pari basé sur une relation de confiance. Et je pense que c'est la base de tout le deal. C'est-à-dire que si on n'a pas confiance l'un en l'autre, on ne va
autant
pas se projeter
pour
3 ans. Et on va pas, voilà, c'est un autre type de deal. C'est un autre type de deal sur lequel on vend l'actif, on prend le cash, on aide à la transition parce que c'est notre devoir, mais on ne croit pas dans le projet global. Nous, ce n'est pas du tout ce type de deal qu'on a.
Jérémy Sixic qui avait pris un full action.
J'allais parler de ça.
Un full action chez Swile.
Ouais,
en cédant briques, ouais.
Tout à fait. Donc, il y a aussi ce type de deal.
C'est ça qu'on aime bien sur Cash Out, c'est qu'on a autant de deals différents que d'entrepreneurs et d'épisodes. Je propose de passer à la vie d'après. Tu l'as évoqué, un jour, tu remonteras une boîte. Donc, on va en parler sur l'impératrice agitation tropicale. Alors, je ne connais pas, je ne l'ai pas écouté.
Je connais,
tu connais? Ok, et ben on y va. Je refais ma culture musicale.
Et tu vas nous dire, ah si, en fait, je connais.
C'est possible. Des paroles dessus ou pas?
Ouais, ça rime.
Peut-être d'autant plus parce que je connais pas. Il me faut une explication à ce choix.
Premier truc que je fais le jour où finalement je décide de partir de partout, parce que ça arrivera probablement un jour, c'est prendre des vacances, tout simplement. Je pense que là, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai eu la chance de pouvoir prendre mes premières vraies vacances totalement off cet été. Parce que pendant les 4-5 années où j'étais dedans, je devais toujours faire un truc pendant mes vacances. J'arrivais jamais à être complètement déconnecté. C'est quand même quelque chose que j'attends un peu avec impatience. Donc c'est un peu comment je l'imagine après, potentiellement.
Quand tu dis vacances, c'est grandes vacances, tour du monde, etc.
Je pense pas prendre, non, je suis pas du genre à vouloir partir faire le tour du monde pendant un an, parce que je pense que plus t'as des émerveillements qui arrivent tous les jours, moins du coup tu vas profiter de chacun de ces émerveillements, tu vois ce que je veux dire.
C'est comme les gens qui habitent à la mer et qui la regardent plus.
Exactement. Donc je me vois plus faire effectivement un gros voyage sur quelques mois, et après rentrer chez moi, prendre du temps pour faire plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire pendant beaucoup de temps. Je pense qu'on va en parler, mais sur la partie finance perso, je commence à regarder un petit peu, mais voilà, c'est un petit peu nouveau pour moi. Donc voilà. Et surtout, je veux me former, prendre ce temps pour me former, pour mieux monter la prochaine boîte. Donc j'ai beaucoup appris, je sais faire beaucoup de choses, etc. Grâce à mon expérience et grâce à ce que je vois aujourd'hui chez Partout. Mais il y a tellement de sujets que j'aurais aimé creuser, sur lesquels j'aurais aimé apprendre et que j'ai pas eu le temps de le faire.
Exemple.
Un exemple tout bête, mais je ne sais pas écrire la moindre ligne de code. Je n'ai pas du tout pour vocation de devenir développeur.
Mais tu veux comprendre et mettre le nez dedans.
C'est quelque chose qui, je pense, m'a quand même manqué de pouvoir comprendre un petit peu comment ça fonctionne et mieux dialoguer avec les personnes qui en ont la charge. Exactement. Je pense que le rôle d'un CEO, c'est d'avoir un vernis sur chacun des sujets. Alors peut-être une ou deux expertises, notamment en termes de leadership, de levée de fonds. Enfin, ça dépend des CEO, mais de pouvoir comprendre un petit peu tout. Et sur plein de sujets, ça va, marketing, question de succès, etc. J'arrive à dialoguer. Sur la partie produit tech, c'est plus complexe.
Et du coup, ça, c'est plutôt pro. Est-ce qu'à titre perso, tu as eu l'impression de faire des sacrifices et sur lesquels tu as envie de passer plus de temps?
Pas vraiment, parce que je suis encore assez jeune. J'ai aucune obligation, aucun. Voilà, je n'ai pas d'enfant, rien. Donc,
Mais tu n'as pas un hobby sur lequel tu aimerais te consacrer un peu plus ou...
J'ai un peu...
Voir plus les amis.
Ouais, ça va, j'ai toujours réussi à... Notamment depuis le rachat, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup...
Voilà, depuis le rachat.
Beaucoup. Oui, ça.
Parce qu'avant, on les voit moins. Ça veut dire qu'on les voit pas.
Ça veut dire qu'on les voit de manière différente. Peut-être plus dispo.
De toute façon, quand on monte sa boîte, il faut faire des sacrifices sur un peu tous les sujets. C'est-à-dire, après, ça dépend où tu mets le curseur, mais du coup, sur les amis, j'ai essayé de garder un minimum, mais il y a plein d'autres trucs, effectivement. Jouer de la guitare, je joue plus de guitare, j'ai plus le temps et... pas forcément quelque chose que je vais relancer.
Eh bien, justement, pour la dernière musique de cet épisode, on t'a ramené une guitare. tu t'évoquais la partie finance perso. Il y a du cash qui arrive, on se met relativement à l'abri. Tu fais quoi de ce cash?
Premier truc, c'est qu'on se fait un beau cadeau pour soi. Et, aussi
et c'était
pour,
quoi ton cadeau?
Je me suis acheté un ordinateur, c'est tout bête, mais toujours avec des
ouais,
trucs tout pourris.
Ça reste pro, quoi.
Pas un ordinateur pro, hein, plus pour moi.
Un gaming.
Ça, ou des films, etc. Je suis très, très média, quoi, au sens large. Donc, c'était tout bête, mais j'avais pas les sous avant pour le faire. Premier truc que j'ai fait. Des cadeaux aussi pour la famille, les amis. Donc, j'ai emmené. Je crois que j'anticipe un petit peu.
Pour la célébration. Ouais, t'anticipes un peu.
Alors, du coup,
j'ai gardé
pour tout à l'heure. Et après, du coup, l'investir. Et ça, je découvrais totalement. C'est-à-dire que c'est un sujet, j'ai fait ultra focus sur ma boîte. Je me suis dit que chaque euro que je gagnais, il fallait, entre guillemets, le réinvestir dans Pulp pour maximiser, finalement, le rendement que je pouvais avoir. Et là, c'est un petit peu différent.
Faut savoir dépenser.
Ouais. Et donc, du coup...
savoir investir, pour le coup.
T'avais une holding, du coup, pour la
justement,
vente.
J'ai créé une holding avec la vente. Voilà, j'ai fait le choix, mes associés ne l'ont pas fait. Comme quoi, il y a vraiment un peu de tout. Moi, c'était... En fait, mes investisseurs m'ont tellement donné que je me suis dit... que un de mes
quand tu dis
objectifs.
Tellement donné, tu parles pas de montant.
À la fois de montant, mais surtout en termes de mentoring et d'accompagnement, je me suis dit que moi c'était vraiment un de mes objectifs dans la session, c'est de pouvoir réinvestir et give back un petit peu. Donc j'ai créé une holding pour pouvoir faire quelques investissements en start-up.
Que t'as déjà fait?
J'en ai déjà fait deux sur les trois que je me suis fixé comme objectif pour cette année.
Ouais. Ouais, voilà. Chez qui?
Chez Nemes. Et après, du coup, donc Nemes, c'est des bracelets sur mesure que tu peux créer et offrir. Et ça, j'adore, c'est un ami qui a monté ça. Et pareil, du coup, mon ancienne CMO, qui est partie du coup de Pulp pour monter son resto. Donc là, du coup, je vais investir dedans et c'est un super projet. Donc, je peux pas encore vous en dire
donc
trop.
Donc ça, c'est la partie investissement.
Parce que tu reçois beaucoup de dossiers, j'imagine.
Ouais, après, en fait...
T'as une grille de lecture, après, c'est pas ton expertise non plus.
Sur les deux sujets, c'est des sujets que je connais bien parce que j'accompagne mon pote depuis qu'il a monté et le resto. Donc ça va. Et en fait, c'est tout bête, mais il y a tellement de dossiers, il y a tellement de sujets que je maîtrise pas très bien, etc., que le filtre, c'est très simple. C'est est-ce que je connais la personne, est-ce que j'ai confiance en elle, est-ce que c'est tout bête, hein, mais en termes de valo, il y a des valos qui sont parfois délirantes. Ça, pour moi, c'est un no-go vu de la taille des tickets que je mets et à quel point je vais pouvoir aider, en fait.
Donc l'équipe fondatrice.
Ouais, c'est ça.
Niveau de maturité. Ouais.
Et le reste?
Le reste, du coup, je découvre. Donc, pour moi, j'ai passé beaucoup de temps à m'enseigner, notamment auprès des amis qui sont assez bons là-dedans. Et donc là, l'idée, c'est d'acheter un appart pour le mettre en locatif, d'investir un petit peu d'argent en bourse. Donc, soit Une partie obligation, une partie sur des ETF, une partie sur les actions en direct, potentiellement garder un petit peu en plus pour des investissements qui sont un petit peu décorrélés du marché. Donc, je sais pas, peut-être sur l'or ou peut-être sur de l'art ou voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas encore commencé cette partie-là. C'est brique après brique.
Non, mais c'est des sujets.
Pas de crypto, non. En fait, vu que je suis déjà surexposé au marché, enfin, surexposé au risque avec mes actions dans partout, et en plus, ça, le fait que je fasse de l'investissement en start-up, les crypto, c'est un
truc. Oui, en termes de risque, t'es déjà assez haut.
Ouais, ça m'intéresse un petit peu, mais pas assez pour remettre encore en plus là-dessus, quoi.
Du coup, dans la pierre. Les copains, les amis, justement, ceux que t'as gardés, c'est un sujet, ça. J'ai vendu ma boîte, j'en parle pas, je veux pas créer des fausses idées non plus.
J'ai pareil, en fait, je peux pas donner mon temps, donc à chaque fois c'est plutôt dire que moi, je suis très satisfait, que ça se passe très bien et que là côté argent, je suis à l'aise, ce qui est un truc que j'étais pas du tout pendant les 4 premières années. Hein, c'était très compliqué de ce côté-là.
Vous y étiez sous-payé, tu penses, là, avec le recul?
En créant
chez Pulp, déjà je pense qu'une fois que nous, quand il était dedans, il devait s'en rendre compte.
Nous en tant que fondateur,
des fois c'est après coup, on aurait peut-être pu se payer un peu plus, quoi.
En fait c'est tout simple, c'est à un moment on s'est payé à un niveau OK et après on a rebaissé parce qu'on s'est dit plus on libère du cash là-dessus, plus la valeur des actions augmente et plus en fait en cas de rachat ou en cas de levée aussi, de fonds, on fera un cash out intéressant. Donc c'était hyper naturel, quoi, mais oui, on était complètement sous-payé, je confirme.
On l'a évoqué et on va conclure là-dessus. La célébration, la fiesta. Je te propose de nous raconter, je les ai pas écoutées avant, là, celle-là, s'il y a beaucoup de paroles ou pas. Ou si on peut parler dessus. On en voit?
Ouais.
Eh ben, t'as choisi September de Earth, Wine and Fire. Mais si, je te connais, je suis con pour une fois, tu vois.
Intouchable.
Et donc t'as fêté ça. Donc les amis, la famille, gros cadeau, plusieurs cadeaux.
Alors, premier truc du coup, première personne avec qui on a fêté, c'est l'équipe. On est rentré au bureau, direct on a sorti champagne et on a dit à tout le monde, vous arrêtez de bosser et on fait ça.
Donc beaucoup de cartons de champagne ont été ouverts?
Non, parce qu'en fait,
c'était 18.
Cette équipe, hein, donc ouais.
Ça va vite. Hein.
Je pense qu'on a acheté 4 bouteilles, quoi.
Ah oui.
Ouais, c'est compliqué.
Donc ça, l'équipe.
Ouais, après, du coup, le soir, on s'est fait un super dîner avec Antoine et Olivier, donc juste à 3.
Et là, tu refais les débuts.
Ouais. On a ressorti nos premiers pitch avec nos premiers VP le soir même, hein, pour essayer de voir, non, mais c'était n'importe quoi, etc. Enfin, ouais. C'est très, très, très marrant. D'ailleurs, avant ça, on avait aussi fêté avec le CEO de Partout et les équipes de Webedia. On a sorti champagne, etc. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. C'était assez bien. Et ce qui était marrant aussi, c'est qu'au moment où on est descendu du building, on essayait, tu sais, de
faire un peu bonne impression.
On est sorti, on a tourné, dans la rue. Et là, c'était la fiesta. Et après, du coup, dîner avec ma copine le lendemain. Et après, des soirées avec tous mes potes. Et en plus de ça, j'ai organisé un dîner avec tous mes potes où j'ai invité tout le monde.
Chez Vic Fernand, quoi.
chez nos autres clients. Ouais, à chaque fois, c'était un de nos clients, mais à chaque fois, c'était un différent. Pareil avec mes parents et ma famille. Voilà, et en fait, ça a duré 6 mois. Où j'ai fait la fête. Et pareil, j'ai fait un cadeau aux investisseurs qui nous avaient le plus aidé. En plus de ça, ouais.
C'est bien de se rappeler.
Ouais, c'est une évidence pour nous. Donc c'était une bouteille de vin, c'était pas voilà, mais c'était une évidence.
Non, mais c'est une marque vraiment bien sûr.
Aider, ouais.
Eh bien, je crois, j'en suis même sûr, que c'est le moment de conclure nos échanges. Avec Arnaud, on a découvert la session de Pulp à Partout. J'espère qu'on te retrouve dans 4 ans, 5 ans, 6 ans. Allez, on te donne 6 ans pour se retrouver sur la nouvelle aventure, nouvelle session peut-être. Et en attendant, on aura le plaisir de rencontrer les poupées russes dont on a parlé tout à l'heure et tous ces entrepreneurs concédés qui t'ont aussi donné pas mal de conseils au moment de la vente. Donc on va sortir nos téléphones, prendre plein de contacts et du coup bah, ça nous permettra de te remercier quand on les recevra.
Avec plaisir.
Merci Arnaud.
Merci.